Guy Philippe Goldstein, bonjour.
Bonjour Lucie.
Vous êtes expert en cybersécurité et cognitive. J'aimerais revenir avec vous aujourd'hui sur plusieurs actualités du moment. Alors, Elon Musk a partagé sur son réseau social X une vidéo manipulée deepfake de la vice-présidente américaine et candidate à l'élection présidentielle Kamala Harris. Plutôt ce jour, même si on dit que X est la plateforme la plus libérale de toutes, il y a quand même des règles à respecter. Pourquoi cette vidéo en question a-t-elle réussi à échapper à ses contrôles? A-t-il cherché à influer sur le discours politique?
C'est remarquable avec cette vidéo qu'a postée Elon Musk, c'est qu'elle contrevient elle-même aux règles posées officiellement par X/Twitter, enfin par X, puisque désormais c'est le nom de ce réseau social. Les règles de X, c'est que on ne doit pas poser un contenu qui à la fois déforme de manière significative ce qu'a voulu dire une personne, que ce contenu ne soit pas, que ce contenu soit présenté comme un élément de réalité et qu'évidemment, il puisse influencer les populations en créant, par exemple, des troubles ou rendre de la confusion à la population. Donc, il y a ces trois éléments-là qui doivent être réunis pour que, du point de vue interne à X, on dise, OK, stop, on ne peut pas diffuser. Bon. Eh bien, apparemment, il y a Monsieur Elon Musk, propriétaire. Mais pas PDG, mais propriétaire de X, qui est allé de X, qui est allé au-delà de ces règles-là, puisqu'il a posté effectivement un contenu qui montrait une vidéo de la vice-présidente désormais candidate du côté démocrate, Kamala Harris, qui, d'une part, racontait un petit peu n'importe quoi, comme quoi elle était la vraie candidate de la diversité, alors ce qui fait très peur aux anti-wokistes, et également qu'elle était là pour poursuivre l'œuvre de l'État profond grâce à son mentor Joe Biden, son vieux mentor Joe Biden. Donc, clairement un mensonge, une manipulation de ce qu'elle a pu dire, qui était présentée par Musk comme un élément de réalité. Je dis comme un élément de réalité parce que la vidéo initiale de ce deepfake était noté comme une parodie, mais Musk l'a présenté comme un élément de réalité. Bon. Et donc ça provoquait un scandale parce que d'une part, évidemment, Musk contrevient aux propres règles de son réseau, dont il est le propriétaire, donc il devrait être le principal garant des règles qui sont installées. Et là-dessus, il y a une réaction évidemment de la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, qui est démocrate, qui est en train de préparer tout un régime de loi pour encadrer la diffusion des images et en particulier de ce qu'on appelle les deepfakes, en français les hyper-trucages, qui, si c'est le cas qu'il s'agit bien de deepfakes, doit être présenté avec des notices d'explication que ceci n'est pas la réalité. Bon. Donc, tout ça a créé un remue-ménage politique assez fort. Ça a été reposté par le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, pour dire cette chose-là, qui contrevient à nouveau aux règles propres de X Twitter, je devrais la déclarer comme illégale, et donc en s'inscrivant dans le projet de loi de Klobuchar. Et évidemment, là-dessus, Monsieur Musk a répondu avec un jeu de mots très vaseux dont je ferai l'économie pour vous et pour votre audience, mais en se foutant de sa gueule. Bon. Donc là, ça pose clairement un problème. Ça pose un problème aux États-Unis. OK? Et évidemment, ça pose aussi un problème en Europe, puisqu'on est en ce mois de juillet, aussi un moment où Thierry Breton et les équipes du Digital Service Act en Europe, une réglementation importante qui est passée en vigueur l'année dernière, avaient ouvert une enquête contre X Twitter à l'automne dernier. Elle est en train de poser ses premiers rendus et montre qu'effectivement, pour plein de raisons, X Twitter contrevient aux règles du DSA. Et donc là aussi, on s'attend potentiellement à des pénalités qui peuvent être très fortes sur Twitter, avec d'ailleurs un impact économique dur sur un réseau qui a beaucoup perdu en revenus. Donc il y a des pressions qui s'exercent sur Elon Musk. Et Elon Musk réagit comment? Elon Musk réagit eh bien, par cette espèce d'esbrouffe de troll, mais quelque part qui est un troll de la démocratie américaine. Voilà, avec plein d'applications derrière.
Et donc la vidéo a été quand même publiée 130 millions de fois. Est-ce que ça illustre bien les défis de la désinformation en ligne pendant cette période électorale aux États-Unis?
Ça montre clairement, d'une part, le point important de Elon Musk. Elon Musk a voulu acheter comment dire, le réseau Twitter qui est devenu X Parce qu'il est déjà, il a déjà un compte avec des centaines de millions de vues et il voulait se positionner. D'ailleurs, il a même changé un petit peu les règles. Être sûr de se positionner comme la voix la plus importante de X Twitter. Donc là, il y a une question d'ego, clairement, dangereuse pour un média qui est de facto un des grands distributeurs d'informations, de news aux États-Unis, un petit peu comme l'était aussi à sa façon, et comme le demeure d'ailleurs Facebook. Bon. Et c'est d'autant plus dangereux que, de façon très claire, Elon Musk se positionne politiquement aujourd'hui en faveur des Républicains, en faveur de Donald Trump et également en faveur, on va dire, du candidat de Musk et de ses copains, Thiel, Andreessen, David Sacks, aux États-Unis, qui est J.D. Vance, qui est nouveau vice-président. Donc, on voit quelqu'un qui est capable de changer les règles et la gouvernance d'un réseau d'information extrêmement large, extrêmement important aux États-Unis, et qui en plus est clairement parti pris. Oui, ça pose un problème dans le cadre de la démocratie américaine, comme pose de manière générale le fait d'avoir des médias qui sont désormais des médias de masse, on peut utiliser ce terme-là, et d'ailleurs c'est un petit peu la notion qui est en creux dans le Digital Service Act, parce qu'il y a en Europe plus de 45 millions d'utilisateurs et il y en a bien plus encore aux États-Unis, donc ce sont des médias d'influence, des médias de masse importants, où clairement il n'y a pas ces éléments de base qui existaient, on va dire, mais y compris aux États-Unis, entre 1946 et 1987, dans le cadre de ce qu'on appelait FRS Doctrine, où tout média de masse, tout broadcast média devait avoir des règles à minima d'impartialité, de précision de l'information et d'équilibre bipartisan en fait des informations. Clairement, là, on est en contravention totale de cet esprit, de ces anciennes règles qui s'appliquaient, et on a là un réseau, mais on le voit depuis longtemps sur d'autres sujets d'ailleurs qui ont déjà été abordés sur ces ondes, par exemple sur l'antisémitisme, où très clairement, son propriétaire ne met pas en place les règles nécessaires et contrevient clairement à la nécessité d'avoir un grand média de masse qui puisse être de référence. Donc oui, il y a problème, c'est certain.
Alors, la campagne américaine semble également perturbée par un autre acteur, l'Iran, selon les renseignements américains et des révélations du Wall Street Journal qui ont été publiées hier, et viserait cette fois le candidat Donald Trump, alors même qu'il y avait eu des tentatives précédentes de l'Iran pour interférer dans les élections américaines en 2020. Cette fois-ci plutôt en faveur de Donald Trump. Comment ces usines à propagande iranienne opèrent-elles? Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur le processus électoral aux États-Unis?
Alors, plusieurs choses. D'une part, les Iraniens ont développé un début de commencement d'art dans cette manipulation cognitive. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu en Israël et ils s'y mettent aux États-Unis. C'est normal. D'ailleurs, ils ont commencé à s'y mettre en gros depuis 2018-2020. Bon. Deuxièmement, un point qui est important, on parle de l'Iran, mais de l'avis de tous les opérateurs de renseignement qui sont exprimés d'ailleurs auprès des médias américains à plusieurs reprises au cours de ce mois de juillet, en préparation des conventions, en préparation de la campagne. Le vrai acteur dangereux aujourd'hui, c'est pas vraiment l'Iran, c'est la Russie, qui reste avec une stratégie très pro-Donald Trump, et à un certain niveau, mais plus inférieur, également la Chine. Mais oui, et ça c'est intéressant à noter, l'Iran, qui est pourtant un allié proche de la Russie et de la Chine, et on le voit d'ailleurs dans les combats sur les réseaux sociaux autour de ce qui se passe de la guerre Israël contre la Hamas, l'Iran, qui est aidé dans les réseaux sociaux par la Russie et également par la Chine, dans une espèce de combat cognitif, ben là pour le coup, a un pas de côté par rapport à ses alliés russes et chinois. Parce que effectivement, eux, ce qu'ils embêtent plus, c'est en fait, c'est le problème d'avoir Donald Trump, dont on a vu un petit peu l'aspect provocateur lorsque, par exemple, il avait décidé l'assassinat de Qassem Soleimani, sachant que l'Iran aimerait à la fois un petit peu contrôler le jeu, parce que son grand objectif stratégique, ça reste quand même le nucléaire, donc il a le développement de sa propre capacité nucléaire, donc il voudrait un petit peu contrôler le jeu. Que Trump est un peu éruptif et on a du mal parfois à sentir un petit peu son jeu, d'une part, et d'autre part, que c'est mieux d'avoir la gauche aux États-Unis, enfin les démocrates aux États-Unis, parce que même là-dessus, on peut un petit peu les diviser. Bon, ça, c'est un deuxième point. Et troisième point, est-ce que ça a des effets? Ça, c'est une grande question qui agite beaucoup des experts. La réalité, on va dire, empirique de ce qui émerge de toutes ces tentatives de manipulation, dont un des grands objectifs, c'est essayer de créer la désunion aux États-Unis, comme on essaie de le faire en Europe. On n'est pas tout à fait sûr que ça fonctionne effectivement. Je serais tenté de dire que, pour avoir vu à titre personnel beaucoup de ces questions-là y être plongé depuis plusieurs années, on peut aussi mettre l'accent en fait sur des choses plus classiques du style augmentation des inégalités, etc., pour expliquer les dissensions internes. Néanmoins, il faut le dire, ces questions de réseaux sociaux mettent, on va dire, de l'huile sur le feu, donc à la marge, ça peut avoir des impacts. Je le dis parce que, à nouveau, il y a eu beaucoup de questions, par exemple, sur le cas unique de 2016, où les Russes étaient allés en masse pour essayer de faire des informations en faveur de Trump contre Hillary Clinton, confère d'ailleurs un rapport bipartisan du Sénat américain de 2018. Et au final, on a réussi peut-être à démontrer un effet réel que peut-être sur l'État du Michigan, donc ça joue, OK? Mais sur le reste de notre État, ce n'était pas clair. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas clair. Néanmoins, pour dire un chapeau général, il semble que pour 2024, on va avoir des opérations en masse très larges. Et beaucoup des autorités américaines signalent déjà qu'elles ont augmenté en gros par deux les alertes envoyées aux différents QG de campagne comparées à 2022 sur des risques de désinformation et de manipulation. Donc, il faut s'attendre pour cette campagne 2024 à des effets de masse sur les réseaux sociaux.
Alors ma troisième et dernière question, on part en France cette fois-ci au cours d'un point de sur la sécurité des Jeux Olympiques. Gabriel Attal a rapporté aujourd'hui que 68 tentatives de cyberattaque avaient été constatées. Est-ce que c'est beaucoup? Et encore une fois, quels impacts ces attaques pourraient-elles avoir sur le déroulé des JO?
Alors, on voit toujours d'ailleurs la suite d'acteurs qui sont désormais très agressifs vis-à-vis de l'Occident, à nouveau la Russie, alors en particulier la Russie, à nouveau d'ailleurs la Russie qui est le plus active dans ces éléments-là, et peut-être à un niveau un peu plus faible d'autres acteurs, mais à vérifier si et la Chine et l'Iran participent à ça, mais clairement la Russie c'est une certitude. Bon. Et la Russie d'ailleurs a déjà participé de façon très active à essayer de disrupter, si vous me permettez ce mot-là, des Jeux Olympiques. En 2018, en Corée du Sud, à Pyeongchang, ils ont tenté, pour le coup, d'interrompre la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2018. Bon. Et les autorités coréennes ont rattrapé le coup à la dernière minute et personne n'a vu grand-chose à l'écran, mais il y a bien une tentative dure pour y arriver. Les autorités françaises, évidemment, étaient au courant de cette situation-là. Elles sont aussi, évidemment, au courant d'un environnement géopolitique qui, il faut le dire, pour les JO 2024, est très dur. Quand on fait un benchmark avec l'histoire des Jeux Olympiques et des relations internationales, on est probablement à un de ces moments chauds, à minimum l'équivalent de 1980, l'invasion de l'Afghanistan et le fait que les Américains n'étaient pas venus, etc. Et peut-être même, on pourrait même tirer peut-être une petite comparaison avec 1936. En tout cas, on est à un moment très dur, très chaud des relations internationales, évidemment, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc là, ce que l'on voit, c'est quelque chose auquel il fallait un petit peu s'attendre. Donc, je ne suis pas sûr non plus, d'ailleurs, qu'il y ait une grande surprise de la part des autorités françaises, mais qu'on va attaquer non pas forcément les cibles premières qui ont probablement été très bien protégés par un dispositif. On va trouver des gens, des privés comme Cisco, comme Atos, qui a une grande expérience de ça, et puis en France, l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des services d'information, mais ou plutôt des cibles secondaires, des sponsors, par exemple, des gens qui sont liés au JO pour créer, alors plutôt des attaques de déni de service, je ne sais pas si on va tenter aussi des rançongiciels, mais des attaques là aussi plutôt pour marquer en fait un élément de nuisance, un élément de peur. Comme on l'a vu aussi un petit peu sur des vidéos là pour faire peur avec un fake qui était une fausse vidéo soi-disant du Hamas mais qui ne l'était pas. Ça a été très bien d'ailleurs expliqué chez certains de vos confrères par une spécialiste Laurence Binner que c'était pas du tout du Hamas. Mais là aussi, probablement pour marquer le coup et dire oui, nous les Russes, on n'est pas contents parce que évidemment ils peuvent pas participer sous le drapeau russe. Bah oui, ils ont contrevenu à la Charte des Nations Unies, ils ont envahi un pays, l'Ukraine, donc ils en payent le prix à minima. Voilà. Mais ils marquent leur désaccord de cette façon-là et on peut s'attendre à d'autres types d'attaques sans nécessairement que ça aille trop loin, parce qu'il y a aussi la Chine qui est partie prenante de ces JO, il y a aussi l'Iran, donc il y aura aussi une forme de limite aux disruptions qui pourraient venir de la Russie.
Eh bien, Guy-Philippe Goldstein, je vous remercie pour votre éclairage sur cette question et à bientôt.
À très vite, merci Lucie.